Une réunion le 6 décembre prochain à Bouraille pour structurer l'UNI en parti politique. C'est ce qu'a annoncé Victor Tutugoro vendredi sur notre antenne. Le président de l'UPM était l'invité de Transparence. De la créativité et du sens des affaires, il en fallait ce matin au rendez-vous des petits entrepreneurs de la CCI qui se déroulait à Nouméa, mais aussi à Koné. Reportage sur ces petites entreprises éphémères dans notre journal. Émotion vive à Marseille pour les 6000 personnes venues rendre un dernier hommage à Mehdi Kessassi, assassiné par des narcotrafiquants. Des anonymes, mais aussi des personnalités politiques étaient présentes dans le cortège. Au Nigeria, 315 enfants et enseignants ont été enlevés vendredi dernier dans une école catholique située au centre du pays. Donald Trump évoquait la semaine dernière une intervention militaire dans le pays en raison de ce qu'il qualifie de massacre de chrétiens. Le sport avec du rugby est le dernier test match de l'année pour les Bleus. D'abord malmené, le 15 de France s'est finalement imposé face à l'Australie 48-33. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Avant de développer tous ces titres, un nouvel accident mortel sur les routes calédoniennes. Hier soir, peu avant minuit, un homme de 32 ans a fait une sortie de route pour des raisons encore inconnues sur la RT1 à Poya. Il était seul à bord du véhicule. C'est une alerte déclenchée sur son téléphone portable au moment du choc qui a appelé les secours qui ont sorti la victime inconsciente de sa voiture avant de constater son décès. 30 personnes sont mortes sur les routes du territoire depuis le début de l'année. L'UNI va se structurer en parti politique. C'est ce qu'a annoncé Victor Tutugoro, le président de l'UPM, qui était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence après la réunion le week-end dernier du 42e congrès de l'UPM. Michael Juneski.
Un congrès marqué par la décision de l'UPM de sortir du FLNKS, dont il est l'un des membres fondateurs. Lors de ce congrès, Victor Tutugoro a été réélu à la présidence, mais il déclare que ce sera son dernier mandat. Pour expliquer cette décision, il invoque son âge, mais aussi le fait qu'il a été victime de la CCAT.
J'ai eu ma maison qui a été brûlée pendant les événements. Et donc, c'est quelque chose que je porte en moi. Et je me dis que peut-être que cela altère un peu mes analyses, l'appréciation des choses. Et peut-être qu'il vaut mieux laisser libre pour que ces risques d'altération puissent porter préjudice à l'UPM. Et donc, il valait mieux que je laisse la place pour la relève.
Après le Palika, l'UPM a donc décidé de quitter le FLNKS, dont elle s'était mise en retrait il y a plus d'un an. Victor Tutugoro est revenu sur les raisons de cette décision.
Une chose simple déjà. Nous sommes promoteurs, nous avons signé l'accord de Bougival, l'UPM, à l'intérieur de la délégation de l'Union nationale. Donc nous sommes signataires de l'accord de Bougival et nous faisons la promotion de cet accord. Le FLNKS, il est contre. En tout cas, tous ceux qui sont à l'intérieur du front nouveau. Et donc, on ne pouvait pas continuer à rester dans un mouvement qui est contre l'accord de Bougival. Donc, pour cette simple raison-là, déjà, l'accord de Bougival est entre nous. Mais en même temps, l'état d'esprit. Ces dernières semaines, on ne pouvait plus espérer revenir. On ne peut pas construire un pays dans un état d'esprit d'outrance, de menace. Et donc, oui, on ne peut pas continuer à rester dans un FLNKS qui a tourné le dos aux idéaux, à la création du Front.
Et pour le président de l'UPM, cette crise que traverse le FLNKS est plus grave que les crises précédentes parce que la conjoncture politique a changé, notamment avec Bougival. Selon lui, cette crise va avoir beaucoup d'impact, mais il se dit soulagé que l'UPM soit sorti.
Oui, effectivement, on est soulagé. Soulagé de sortir pour pouvoir peut-être faire ce qu'on n'a pas été capable de faire au front ou peut-être faire autrement les choses. Construire un pays. On ne construit pas un pays en menaçant les autres, en faisant de l'intolérance. On construit le pays en associant. On va construire quelque chose en associant les gens. Et donc, je pense que l'Union nationale pour l'indépendance, qu'on appelle la structure, va se réunir prochainement. Et donc, on va s'attaquer à ce chantier. Mais déjà, nous, à l'UPM, on dit, il faut construire avec tout le monde.
Victor Tutugoro invoque aussi, pour justifier ce départ de l'UPM, l'adhésion de petits partis et la nomination à la présidence de Christian Théin qui, pour lui, a été la goutte d'eau. L'UPM soutient l'accord de Bougival, dont Victor Tutugoro est l'un des signataires au sein de la délégation unie, et il affirme ne pas avoir compris le retrait du FLNKS. Pour lui, l'enjeu de Bougival, c'est la création d'un État de Nouvelle-Calédonie pour l'ensemble de la population. L'idée, dit-il, c'est de construire ensemble et non pas les uns contre les autres.
Construire les uns contre les autres, c'est ce qu'on a fait avec l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa a ouvert des perspectives formidable. Mais on n'a pas su faire les choses, on n'a pas su faire évoluer, faire vivre le vivre ensemble. Mais on n'a pas su, on est resté chacun dans nos clivages. Et quand on est sorti de l'accord de Lumière, ben on s'est retrouvé dans la même situation. Mais il ne faut pas que Bougival, aujourd'hui, ben on fasse la même chose. Il faut penser autrement, il faut organiser autrement pour ne pas reproduire l'accord de Lumière. Parce que sinon, on n'est pas prêt à faire ça, ben dans 20 ans, on se retrouvera dans la même situation.
Et pour Victor Tutugoro, Bougival doit permettre d'arriver à la souveraineté, même si pour l'instant, il crée un État au sein de la République française.
Pour le moment, il est au sein de la République. Mais l'espoir que nous, on a, nous, c'est qu'ensemble, on puisse accéder à un statut international. Dans un temps qu'il faudra mettre, pas 40 ans non plus, mais dans un temps suffisamment, dans 15 ans, dans 20 ans, qu'on ait suffisamment construit une maturité politique entre nous, les citoyens de ce pays, pour qu'ensemble, on dise oui, ok, on va vers la souveraineté. La souveraineté, hein, c'est ce que disait hier Jean-Marie Tjibaou, la souveraineté, c'est de choisir ses interdépendances. Parce que parler d'indépendance aujourd'hui, dans la situation où l'on est aujourd'hui, c'est un peu difficile. Mais oui, il faut construire sa souveraineté. Mais la souveraineté du pays, la souveraineté de tous les habitants, de tous, quelle que soit la couleur de notre peau.
Pour porter cette vision de l'avenir, l'Union nationale pour l'indépendance va se structurer, annonce Victor Tutugoro. Il reconnaît que l'UNI, qui regroupe le PALIKA, l'UPM et l'UNID, manque aujourd'hui de visibilité.
Effectivement, l'UNI aujourd'hui, c'est surtout une démarche électorale, parce qu'on est surtout représenté dans les institutions. Le 6 décembre prochain, on va se réunir les composantes de l'Union nationale pour ériger un parti politique, le transformer l'UNI en parti politique, donc avec une direction politique, avec une organisation communale à la base. Mais on va aussi organiser nos relations à l'extérieur, notamment dans la région, pour porter cela. Mais on va aussi organiser au niveau national français, parce qu'il faut que l'on soit connu, il faut que l'on soit supporté.
L'UNI qui veut donc se faire connaître et tisser des réseaux en métropole, à l'ONU ou encore avec le fer de lance mélanésien, même si les partis qui la composent continueront à exister. La réunion pour transformer l'UNI en parti politique aura lieu le 6 décembre prochain.
Une interview de Victor Tutugoro à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet. Elle sera rediffusée dans son intégralité ce soir, juste après notre édition de 17h45. Il n'y a pas d'âge pour entreprendre. La preuve, près du marché de Port-Moselle ce matin, où plusieurs centaines d'enfants avaient installé leur chapiteau sur leur table, le fruit de plusieurs jours, voire semaines de travail et d'efforts pour imaginer leur petite entreprise. Charlotte Coulson.
Besoin de décorer votre intérieur, de vous offrir un petit bijou ou bien simplement de vous remplir le ventre. Il y avait de tout ce matin au rendez-vous des petits entrepreneurs qu'organisait la Chambre de commerce et d'industrie. À Nouméa ou à Koné, près de 400 jeunes âgés de 6 à 17 ans se sont lancés le défi de créer leur petit business. Un challenge qui peut paraître compliqué lorsqu'on est jeune et pourtant les enfants regorgent d'idées. À Port-Moselle, ils étaient ravis de présenter leurs produits et surtout de pouvoir les vendre.
Donc on a construit plein de petits porte-clés avec des boules en bois et des cordes qu'on grave avec mon imprimante laser. On a fait des tests de base, on savait pas exactement quoi faire. Et après on a réfléchi, on s'est dit on va faire ça. Ah moi ça me plaît, j'adore ça. De un on construit et puis après on peut vendre sur le terrain et c'est drôle.
Du coup comme ma mère elle aime bien coudre et moi aussi j'aime bien coudre, du coup on s'est dit bah on va faire ce qu'on sait faire. Du coup on a fait des pochettes. J'ai fait des tests quand même parce que c'est pas très facile de faire les doublures et tout ça. Oui. Des fois, ils me posent des questions. Oui, ça va, j'aime bien. Bah, c'est un peu comme si tu travaillais.
Moi, je pense qu'on est tous capables et du coup, bah, c'est ça qui est cool. Bah, même quand on est petit, on peut créer notre propre entreprise.
Le rendez-vous des petits entrepreneurs est organisé par la CCI pour la 4e fois déjà. Et pour les plonger pleinement dans l'expérience ce matin, les élus ont déambulé entre les stands, très attentifs au speech des jeunes. Pierre Massenet, élu à la CCI, évaluait leur projet selon différents critères.
Là, on est en train de noter les stands, voilà. On note l'argumentaire de vente, on note la beauté du stand, la communication, la créativité du projet. Est-ce qu'on est sur une activité responsable? Et puis aussi la manière dont ils le vendent, l'histoire qui est derrière. Oui, l'objectif derrière, c'est de faire l'expérience de l'entrepreneuriat. On est dans des conditions réelles de l'entrepreneuriat. Ils sont préparés depuis longtemps. Ils ont construit leurs produits, leurs services. Ils sont arrivés, ils ont dû faire de la communication, ils ont dû mettre des prix. Et maintenant, ils doivent vendre à des clients avec beaucoup de compétition autour. Donc c'est une expérience de vie et puis c'est surtout l'expérience de l'autonomie, de la réalisation de soi, de la satisfaction.
Le rendez-vous des petits entrepreneurs a pris fin à 11h30. Il se déroulait à Nouméa, mais aussi au centre commercial Théhari, à Koné.
Clap de fin pour la 21e nuit du Fantastique qui se déroulait depuis hier au Ciné-City. Près de 100 cinéphiles ont tenté l'expérience d'assister à plus de 12 heures de projection en 5 films, diffusés de 20h hier soir à 8h30 ce matin. Étaient programmés cette année les 4 Fantastiques, Sinners, Dragon, Superman et Jurassic Park, premier du nom. Satisfaction également du côté des participants qui ont parfois eu du mal à tenir éveillé toute la nuit.
C'est bien, mais pour moi, je me suis endormi un peu à un moment. Après, j'ai dormi aussi un peu à Dragon.
C'est génial, superbe expérience. Moi, c'est ma première fois et je dois dire que j'ai adoré.
C'était bien, il y avait des bons films et c'était les films derniers sortis à l'affiche, donc c'était vraiment cool. Le prix était abordable aussi, 2520 pour 5 films, je trouve que c'est vraiment bien. Il y a des moments où j'ai craqué, j'essaie de pas trop dormir, mais sinon ça va.
Bon, on avait déjà fait celle d'il y a 2 ans, c'était super et on est revenu en sachant qu'on allait bien aimer.
J'ai un peu dormi, on va dire, sur un film que j'ai déjà vu, on va dire. Vu que j'avais déjà vu Superman, donc du coup j'en ai profité pour juste fermer un œil ou deux.
Super bien, de très bons films, il y en a, et j'espère qu'il y en aura d'autres prochainement.
Exceptionnellement, les spectateurs pouvaient venir au cinéma avec des couvertures et des oreillers pour plus de confort. Rien d'officiel pour le moment, mais la Nuit du Fantastique devrait revenir pour une 22e édition l'année prochaine. Certains Calédoniens, eux, préparent déjà les fêtes de fin d'année et pour dénicher le cadeau original, ils se sont donné rendez-vous au Parc Brunelé. Le marché alternatif s'y tient tout le week-end et réunit une centaine d'exposants, Charlotte.
Un événement qui fête ses 10 ans déjà et pour cette 10e édition, l'association organisatrice a prévu une vaste programmation, du théâtre, des concerts et bien sûr des artisans locaux. L'occasion de découvrir des savoir-faire du territoire et certains corps de métier qui sont essentiels et pourtant assez méconnus. C'est le cas par exemple de l'activité de Nicolas Volo qui est forgeron, coutelier, ébéniste.
Je suis revenu vivre en Calédonie, ça faisait déjà un moment que je forgeais des couteaux. C'était une activité annexe, mais là, ça prend de plus en plus d'importance. Et maintenant, j'organise aussi des stages d'initiation et des stages de fabrication de couteaux. Je forge de plus en plus de couteaux locaux en acier de récupération, beaucoup avec du bois local. On fait aussi beaucoup avec du bois de cerf, on essaie de faire un paquet de produits locaux. Il y a une vraie demande sur des couteaux un peu spécifiques, les chasseurs, mais aussi les personnes qui aiment bien cuisiner. On fait beaucoup de couteaux un peu costauds pour les gens qui aiment bien couper de la viande ou couper du poisson. On fait beaucoup de couteaux à la japonaise. Pour faire le sashimi, des choses comme ça.
Tous les stands sont à découvrir au Parc Brunelé jusqu'à 17h ce soir.
Merci Charlotte Coulson. Midi 12, première pause avant de voir toute l'actualité nationale, internationale, mais aussi dans le Pacifique.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Jusqu'au 12 décembre, gagnez un séjour dépaysant au Malibu Beach. Logez 5 nuits en bungalow jardin avec vue mer, petit déjeuner et dîner pour 2 personnes. Profitez de la mer avec les kayaks mis à votre disposition, de la piscine ainsi que de nombreuses activités sur place. Un cadeau d'une valeur de 119 000 francs. Pour jouer, c'est facile, envoyez maintenant chance. Au 40-20, le Malibu Beach vous accueille toute l'année dans un cadre idéal pour se ressourcer et s'évader, en couple ou en famille. Toutes les actus sur le Facebook de l'hôtel. Alors pour décompresser, envoyez chance au 40-20, tirage au sort le vendredi 12 décembre à 14h, 371 francs par SMS. Et sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La fin de votre journal avec Léana Colombo.
En métropole, plus de 6000 personnes rassemblées la nuit dernière pour nous à Marseille. Des anonymes pour la plupart, mais aussi des politiques venus soutenir la famille de Mehdi Kessassi, 20 ans, assassiné par balle le 13 novembre dernier, mais aussi pour faire bloc face au narco-banditisme. Reportage de Laura Legault et Léonore Richard pour Europe 1.
Mon cœur est déchiré. Je suis inconsolable.
Face à la foule, la mère de Mehdi Kessassi, vêtue de blanc, apparaît brisée par l'émotion.
Aucune mère ne veut voir ses enfants mourir avant elle. C'est le deuxième fils qu'ils me prennent.
Deux de ses fils ont été tués par des narcotrafiquants. Alors elle appelle à agir pour y mettre un terme, tout comme Ismaël, 19 ans.
Ce qui s'est passé, c'est terrible. On veut dire non au narcotrafic. On ne veut plus voir ça dans les rues.
L'hommage s'est tenu en silence, mais Sullivan ne cache pas sa colère.
C'est un sentiment de révolte parce que je pense qu'on est en France, qu'on est en 2025, et qu'en fait personne ne devrait avoir à perdre un membre de sa famille pour un combat politique.
Alem habite dans les quartiers nord de la ville. Elle subit le trafic de drogue quotidiennement.
Il faut que ça s'arrête pour nos enfants. Ils essayent de nous faire perdre espoir, mais on est toujours là. Je rêve d'un ciel bleu et que ces narcotrafiquants disparaissent.
De nombreux élus étaient aussi présents cet après-midi. Le maire de Marseille, Benoît Payan, a appelé à une cohésion nationale.
Nous devons mener une guerre face à celles et ceux qui assassinent pour de l'argent. On est face à une mafia. Il ne peut pas y avoir de droite, il ne peut pas y avoir de gauche. Il ne doit y avoir qu'une seule nation.
Et tous, unis face au narcotrafic, gardent cette phrase d'Amin Kessassi en tête. On ne peut pas tuer tout un peuple.
Parmi les personnalités présentes lors de cet hommage, des politiques de tous bords confondus, le maire de Marseille, Benoît Payan, le député insoumis Sébastien Delogu et le député RN Franck Alizio, tous deux candidats au municipal 2026 à Marseille, étaient également présents. La porte-parole du gouvernement Maud Bréjon, le député européen LR François-Xavier Bellamy ou encore la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet.
RRB, il est midi 15.
À l'étranger, Donald Trump presse Volodymyr Zelensky d'accepter son plan de paix pour l'Ukraine. Kiev qui est d'accord pour entamer des consultations. Elles vont avoir lieu en Suisse avec les Américains sur cette base-là. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio et l'émissaire diplomatique de Donald Trump, Steve Witkoff, seront demain à Genève. Une initiative américaine saluée par Emmanuel Macron, mais qui requiert du travail supplémentaire, a-t-il déclaré à l'occasion du G20 à Johannesburg. Direction le Nigeria, avec ses attaques, massacres et autres kidnappings presque quotidiens. Vendredi dernier, 315 enfants et enseignants ont été enlevés dans une école catholique du centre du pays. Plus tôt dans la semaine, c'est un lycée qui avait été visé dans une région voisine. Des enlèvements qui rappellent celui du lycée de Chibok, perpétré par Boko Haram il y a une dizaine d'années. Les écoles qui sont toujours la cible des groupes armés au Nigeria. Alors que sait-on de cet enlèvement survenu dans une école catholique. Élément de réponse avec Wilfried De Villers pour Europe 1.
Eh bien, le raid s'est déroulé très tôt vendredi matin. Des hommes armés débarquent dans le village de Papiri et se dirigent vers l'école Sainte-Marie où de nombreux élèves et une partie du personnel vivent. Dans des dortoirs, c'est l'internat qui est pris pour cible. Dans la panique et la confusion, certains élèves internes parviennent à prendre la fuite. Les autres, comme la majorité des enseignants, sont désormais aux mains des ravisseurs. Au total, 303 enfants, 12 enseignants sont enlevés selon le dernier bilan de l'Association des chrétiens du Nigeria. Il s'agit, vous le disiez, Maëlle, du second enlèvement cette semaine après le rapt de 25 lycéennes musulmanes lundi dans le nord-ouest du Nigeria. De nombreuses écoles du pays ont annoncé hier leur fermeture jusqu'à nouvel ordre. Des enlèvements en série qui illustrent les failles sécuritaires du Nigeria et l'impuissance des autorités qui ne parviennent pas à arrêter ces groupes armés décrits dans le pays comme des bandits. Leur cible, des écoles mais aussi des lieux de culte. Jeudi, c'est une église qui a été attaquée en pleine messe, filmée et retransmise sur les réseaux sociaux en direct. Sur ces images, on voit les paroissiens prendre la fuite au son des rafales de fusils automatiques. Deux enlèvements de masse et une attaque qui interviennent après les menaces de Donald Trump cette semaine qui évoquait une intervention militaire au Nigeria en raison de ce qu'il qualifie de massacre de masse de chrétiens.
Wilfried De Villers pour Europe 1. Dans l'actualité dans la région, dans le territoire du nord de l'Australie, une vaste opération de nettoyage et de remise en état de nombreuses infrastructures se poursuit dans la région de Darwin suite au passage de Fina, premier cyclone de la saison, la nuit dernière. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Selon le bureau météo, Fina, alors cyclone de troisième catégorie sur une échelle de 5, était accompagné de très fortes chutes de pluie et surtout de vents destructeurs de 130 km/h avec des pointes à 185 km/h. Bien qu'il soit passé à environ 55 km au nord-ouest de Darwin, il y a déraciné des arbres, arraché des toitures et endommagé le réseau électrique, privant d'énergie des milliers d'usagers, dont des centaines l'étaient toujours ce matin. Les services de voirie travaillent depuis l'aube à dégager les rues de Darwin et de ses environs des débris qui les jonchent. Les équipes de secours sont également à pied d'œuvre pour remettre en état les principales infrastructures de la région. Le cyclone Fina, quant à lui, poursuit sa route au sud-ouest à 8 km/h en direction de Kimberley. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est midi 19, on va marquer une seconde pause dans ce journal avant d'ouvrir notre page sport. À tout de suite.
Les sapeurs-pompiers de Nouméa vous ouvrent les portes de la caserne Lucien Parent, située au centre-ville, le samedi 29 novembre de 9h à 16h.
Visite des camions, initiation aux gestes qui sauvent, démonstration du groupe d'intervention en milieu périlleux, parcours du mini-pompier.
Un programme riche en animations et surprises vous attend.
Et pour les enfants, un concours de dessin sur le thème des pompiers est d'ores et déjà ouvert. Déposez-le avant le mercredi 26 novembre à la caserne Lucien Parent.
Des lots seront offerts le jour J.
Toutes les infos sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
Événement littéraire à l'Amirauté, le samedi 29 novembre de 9h à 16h. Le deuxième SAO, Salon des auteurs en off. Débat sur la place des femmes à 9h30. Débat sur la géopolitique de la Nouvelle-Calédonie et l'Indo-Pacifique à 14h. Conteurs, ateliers d'écriture, stand-up, lecture, exposition de Stéphane Foucault, vente de livres, dédicaces avec 35 auteurs présents le samedi 29 novembre à l'Amirauté. Viens croquer un SAO et dévorer un bon livre. Entrée gratuite.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Radio Rythme Bleu, la première radio de Nouvelle-Calédonie.
La fin de votre journal avec Léana Colombo.
À la une du sport, le rugby et le 15 de France achèvent sa tournée de novembre par une victoire face à l'Australie, Michael Gineski.
48 à 33, des frayeurs mais du spectacle. D'abord brouillonne, l'équipe de France a fini fort la rencontre pour remporter ce match riche en essais face aux Wallabies, 7 essais à 5. Les Australiens qui restaient sur deux défaites de suite avaient à cœur d'opposer une belle résistance aux Français. Ces derniers ont tout de même réussi donc à finir en beauté. Nicolas Deporter, 22 ans, a encore brillé avec deux essais à son crédit. Il a été désigné homme du match.
Et franchement, on a sorti une belle perf collective malgré nos fautes. Je pense que ça reste encore un point noir sur les matchs et cette tournée. Mais mine de rien, on a sorti un beau jeu comme tout le monde l'attendait. Et je pense que ce soir, tout le monde est content, principalement nous. Franchement, c'est une très belle équipe d'Australie. Ils ont fait une très belle tournée, même s'ils n'ont pas gagné un match. Ça reste une très très belle équipe. Mais bon, on avait à cœur de se rattraper sur les deux prestations, même si on a gagné contre les Fidji. Aujourd'hui, je trouve qu'on a sorti une belle perf malgré ses fautes. Ouais.
Les Calédoniens Romain Taofifenua et Rodrigue Néti ont participé à ce succès des tricolores en faisant leur entrée sur la pelouse du Stade de France après l'heure de jeu. Les Bleus terminent donc sur une bonne note malgré tout après la défaite contre les Springboks et la victoire poussive sur les Fidjiens. Parmi les autres tests match du jour, on signalera notamment que la Nouvelle-Zélande a dominé le Pays de Galles. Victoire des All Blacks 52 à 26. Les Fidji ont battu l'Espagne 41 à 33. On signalera encore que l'Afrique du Sud a triomphé de l'Irlande 24 à 13.
Rugby toujours avec le top 14.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du top 14. À vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
Voyons les résultats de la 10e journée du championnat de France.
Et déjà ce succès de Lyon sur Clermont 43 à 24. De son côté, le Racing 92 a battu Bayonne 47 à 27. Castres est allé s'imposer sur les terres de La Rochelle 19 à 17. Montpellier a écrasé Perpignan 28 à 0. Enfin, le Stade Toulousain a récupéré sa place de leader avec un succès très large sur le terrain du promu Montauban 49 à 7. Ça avait débuté hier par un succès à l'extérieur de la section paloise sur le terrain de l'Union Bordeaux-Bègles, 34 à 33. Demain matin, le Stade français fera face au RC Toulon.
Sur les terrains de football, la 13e journée de Ligue 1, le PSG reprend la place de leader.
Le Paris Saint-Germain qui s'est baladé face au Havre. Un succès 3-0 avec des réalisations signées Lee, Neves et Barcola. Le PSG reprend la place donc de leader qui avait été occupé provisoirement hier par l'Olympique de Marseille. Vainqueur, on le rappelle, de Nice en match d'ouverture 5 buts à 1. L'OM qui est à égalité de points avec Lens, vainqueur aussi aujourd'hui du RC Strasbourg 1-0. Enfin, le dernier résultat du jour, c'est la victoire de Rennes sur Monaco 4 buts à 1. On aura tout de même vu le retour de Paul Pogba sur les pelouses de Ligue 1. Après plus de 2 ans et demi loin des terrains, l'international français est entré à la 85e minute de jeu sous les couleurs des Monégasques. Les autres rencontres seront à suivre ce soir et demain matin.
Les sports mécaniques, il y aura de la Formule 1 cet après-midi.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
À suivre donc ce dimanche le Grand Prix de Las Vegas.
Avec Lando Norris qui a déjà signé la pole position, le Britannique s'est montré le plus rapide lors des qualifications pour décrocher sa troisième pole position consécutive. Lors d'une séance marquée par de fortes pluies, le pilote McLaren s'élancera donc en tête de la course juste devant Max Verstappen sur Red Bull. Max Verstappen qui peut encore rêver de conserver sa couronne mondiale. Chez les Français, Isaac Hadjar sur Racing Bulls, sur un tracé qu'il disait ne pas apprécier, a réussi à signer le 8e. Il a surtout montré sa frustration alors qu'un drapeau jaune l'a coupé dans son élan pour aller chercher une meilleure position.
On a tout timé parfaitement pour avoir la meilleure condition de piste à la fin et pour ralentir. Donc ça, vraiment, c'est dommage. On était vraiment... Enfin, j'étais super à l'aise sous la pluie, on avait un bon rythme, donc ouais, P8, c'est vraiment pas ce que je voulais faire après la Q2.
Et de son côté, Pierre Gasly s'élancera de la 10e position et Esteban Ocon de la 13e place. Notez que Lewis Hamilton, gêné par les mauvaises conditions météo hier, n'a pas réussi à passer la Q2. Il partira de la dernière place au volant de sa Ferrari. Son coéquipier Charles Leclerc s'élancera lui de la 9e position. Un Grand Prix de Las Vegas à suivre donc cet après-midi. Le départ sera donné à 15h, heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacifique. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Le sport, côté calédonien, on parle kickboxing avec la nouvelle victoire de Cédric Do lors de la nuit des champions à Marseille.
Le calédonien qui décroche une nouvelle victoire sur la scène nationale chez les 78 kilos, succès de prestige face au métropolitain Carlo Berrichon lors d'un grand événement à Marseille. Son adversaire du jour était un réel rival avec un profil identique à celui du calédonien fighter. Carlo Berrichon était ex numéro 1 français chez les 72 kilos, ancien champion d'Europe et intercontinental. Un total de 94 victoires, dont 83 par KO. Cédric Do s'est donc imposé dès la première reprise avec un enchaînement percutant au point qui n'a laissé aucune chance à son adversaire, tout de suite KO. Ce succès permet au Calédonien, à seulement 30 ans, d'asseoir sa position de numéro 1 français dans sa catégorie avec 50 victoires, dont 30 par KO, une égalité et 7 défaites. Il avait pourtant connu de nombreuses péripéties avant ce choc, une blessure, puis un combat annulé après son stage d'entraînement intensif en Thaïlande. Toujours soutenu par Certis Major et la CD Fight Academy, il nous avait fait part de son état d'esprit avant le départ. À l'arrivée, c'est donc encore un déplacement gagnant pour Cédric Do, qui ramène à nouveau un trophée dans ses valises après ses titres de champion de France pro de Muay Thai et son titre de champion d'Europe de kickboxing Waco Pro chez les moins de 78 kilos.
Hors du territoire, la SPTT joue ce dimanche la petite finale de la O-League de futsal. Les Calédoniens tenants du titre océanien retrouvent les Vanoités de Southern Legends dans une rencontre pour la troisième place, alors que la finale se disputera entre les Salomonais du Matak FC et les Néo-Zélandais de Watiako. Sur le territoire, il y a du golf avec les interclubs qui se disputent tout le week-end.
Oui, compétition au caractère bien particulier sur les greens de Dimbéa. Les parties sont l'occasion pour les joueuses et les joueurs, toutes catégories d'âge confondues, de défendre avant tout les couleurs de leur club durant deux jours.
Je suis du club du golf de Tina. Franchement, c'est agréable de représenter les couleurs du club et puis on est tous ensemble, on joue tous ensemble et on est en équipe, quoi, c'est cool.
Tu es de quel club, toi ?
Dimbéa. C'était intéressant de participer. Une fierté un peu.
On fait partie de la catégorie, nous, plus senior qu'élite. Mais étant donné qu'il n'y a pas assez de joueurs encore à Dimbéa, donc voilà, on est en renfort avec notre jeune équipe. Voilà, c'est une ambiance très conviviale, parcours sympa, bien préparé, vraiment une très bonne ambiance. Ça s'est bien passé ce matin, ça s'est bien déroulé, une victoire voilà, bien méritée, mais super. Représenter le club Dimbéa, voilà, nous on est Dimbéa, voilà, c'est important de représenter notre club et puis essayer de mener les couleurs de notre club au plus haut, quoi.
Je suis licenciée à Deva.
Pareil, licenciée à Deva.
Une meilleure journée hier parce que c'était un petit peu couvert, donc c'était un petit peu mieux parce que faire 18 trous le matin et 18 trous l'après-midi, c'est très compliqué. On a un peu morflé, mais ça a été. Et puis, on s'est bien battu contre les filles de Dimbéa. Et on a gagné au 16e trou, donc on a gagné 3-2, donc on est très contente.
c'est une conviviane, c'est super sympa, bonne ambiance.
C'est pour ça que on reste dans les mêmes clubs, on veut pas changer. On y est depuis le début et on y restera jusque la fin, quoi. On est fiers de notre club.
Des interclubs de golf qui se termineront cet après-midi, donc sur les greens de Dimbéa, avec plus d'une cinquantaine de joueurs présents à cette occasion.
Merci, Mickaël Juneski. Il est midi 29, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous d'information, ce sera le rappel des titres à 13h.